19h, passé de quelques minutes, que quelques secondes, pardon, sur France Culture. Et c'est l'heure du rendez-vous, c'est à vous Laurent Gomard.
Oui, juste quelques secondes. Merci Mélanie Chalandon. Dans quelques minutes, le rendez-vous, une émission, la vie, le rire et les larmes. Ce soir avec le président de Gaumont, Nicolas Sédoux, et le parolier, scénariste, écrivain, journaliste Jean-Loup Dabadi. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres, et parce que vous écoutez France Culture, mais il est bien 19h. Damien Triomphe, bonsoir.
Bonsoir. Cela fait près de 40 ans qu'un Français n'a pas été condamné à être exécuté. Serge Atlaoui risque bien d'être fusillé dans les prochaines semaines en Indonésie. Dans ce pays, il est condamné à mort pour trafic de drogue. La Cour suprême a rejeté aujourd'hui son dernier recours. Le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, dit espérer un geste de clémence et il prévient l'Indonésie. Une exécution aurait des conséquences sur ses relations avec la France. En Égypte, Mohamed Morsi a été condamné aujourd'hui à 20 ans de prison. L'ex-président islamiste a été renversé il y a 2 ans. Il échappe à la peine de mort alors qu'elle est quasiment toujours prononcée contre les dirigeants islamistes, les frères musulmans, depuis le retour de l'armée au pouvoir. Mohamed Morsi est reconnu coupable d'avoir usé de la violence, fait arrêter et torturer des manifestants lors d'un rassemblement en décembre 2012. Plus de 940 morts et près de 3500 blessés au Yémen, civils et militaires confondus. C'est le dernier bilan humain dressé par l'Organisation mondiale de la santé depuis le début du conflit il y a un mois. Mais il ne comptabilise pas les morts des derniers jours, ce qui alourdit de fait le bilan. Le conflit continue entre les rebelles chiites et la coalition menée par l'Arabie saoudite. Pour des raisons de sécurité, l'Organisation internationale des migrations a interrompu aujourd'hui l'évacuation des étrangers au Yémen. Sur place, il en reste plusieurs milliers. 5000 sont considéré comme prêt à partir. En Afrique du Sud, l'État a décidé aujourd'hui de déployer l'armée pour faire face aux violences racistes et xénophobes. Les étrangers venus d'autres pays africains sont directement menacés. 7 d'entre eux ont été tués depuis le début du mois. Demain, au Conseil des ministres, François Rebsamen, le ministre du Travail, va présenter son projet de loi pour réformer le dialogue social dans les entreprises. À l'origine, patronat et syndicats devaient s'accorder sur ce dossier, mais les négociations avaient échoué au mois de janvier. L'exécutif avait alors repris la main. Parmi les mesures, un dispositif pour qu'il n'y ait pas de discrimination salariale envers les représentants du personnel, la possibilité aux salariés des TPE d'être représentés, ou encore la prime d'activité qui remplace le RSA et la prime pour l'emploi. Nous reparlerons de ce projet de loi dans le journal de 22h sur France Culture avec notre invité Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. À 17 ans, près d'un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis. C'est un chiffre de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur l'année 2014. La consommation est repartie à la hausse. Toujours à 17 ans, près d'un jeune sur 10 dit en consommer régulièrement. Le temps de demain, mercredi, globalement agréable, du soleil sur quasiment toute la partie nord et ailleurs un soleil un petit peu moins brillant. Des nuages sont attendus du sud-ouest jusqu'au Pays de Loire et des nuages aussi dans le sud-est. 19h03 sur France Culture, eh bien c'est Laurent Gomard et c'est le rendez-vous.
Merci Damien Triomphe, on vous retrouve à 22h pour le journal, alors à tout à l'heure.
Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Tout de suite, le rendez-vous.
T'es complètement fêlé, qu'est-ce qui t'a donné ça?
T'aurais pas tiré dessus puisque tu m'aurais rien fait.
Eh bien, nous, on va faire des trucs ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de chronomégaphone, de trichromie, de comédie, de sketch, de Romy Schneider et même de Marguerite. Avec Nicolas Sédoux pour les 120 ans, je savonne aujourd'hui, de Gaumont, une exposition et un livre reviennent sur l'histoire d'une société qui aura accompagné le cinéma sur le plan technique, de l'exploitation et de la production. Benoît Lagan.
Retour sur le parcours d'un décideur du cinéma qui, depuis 1974, date de son arrivée à Gaumont. Il aura produit Jean-Luc Godard, Yves Robert, Luc Besson ou encore Guillaume Gallienne.
19h30, la chronique Vanity Fair d'Anne Boulay. Ce soir, à son programme, une actrice hollywoodienne, Anne, c'est ça?
En effet, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Laurent.
Et c'est qui?
Vous verrez bien, un peu de suspense.
19h35, plateau du rire, la vie et les larmes. Avec Jean-Loup Dabadi, un coffret de 3 CD rend hommage à ce parolier et scénariste qui aura écrit pour Julien Clerc, Claude Sauté, Guy Bedos, Benoît Lagan.
Ah, il a écrit pour moi aussi.
Non.
Retour sur le parcours de... J'aurais adoré. Retour sur le parcours d'un parolier qui aurait aimé faire de la sculpture et qui, au cinéma, aura fait des comédiens et comédiennes. Les souffleurs des auteurs.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre d'abord sur le son du jour.
On m'a demandé il y a 3 jours de remettre la Palme d'Or. J'ai été très honorée, j'ai pas hésité une seconde. Et depuis, les choses se sont accélérées et il a fallu beaucoup de choses. Alors j'ai fait 18 discours, j'en ai écrit 5. On m'en a remis un tout à l'heure, il y a 5 minutes. Je vous le lirai après. Peut-être que ce sera très bien. Alors donc je suis arrivée ici il y a 1h30. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi. J'ai demandé partout. Alors j'ai eu comme ça des bribes de réponses qui me disaient oh Karen, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il ne date pas d'hier.
Non, il date d'il y a quelques années, c'est un discours de Sophie Marceau, il y a plusieurs années à Cannes. Sophie Marceau qui revient, même si Cannes c'est moins bien que Cabourg, puisque la composition du jury a été dévoilée ce mardi, le jury de Cannes. On y retrouve donc Sophie Marceau, mais aussi le cinéaste canadien Xavier Dolan, l'actrice britannique Sienna Miller, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, l'actrice espagnole Rosy de Palma, ainsi que la chanteuse malienne Rokia Traoré, et l'acteur américain Jay Gyllenhaal. Le jury sera présidé, je le rappelle, pour la première fois de l'histoire du festival par 2 personnes qui artistiquement disent qu'ils n'en forment qu'une seule. J'ai nommé Joël et Ethan Coen, Palme d'Or à Cannes en 91.
Et tout de suite, c'est l'heure du dossier du jour et c'est le grand retour du dossier des intermittents. Les ministères du Travail et de la Culture ont dévoilé aujourd'hui leur feuille de route pour l'intermittence alors qu'un projet de loi doit être présenté demain au Conseil des ministres. 2 textes issus de la longue concertation autour de l'intermittence qui s'est achevée il y a trois mois. Mais les négociations sur le fond sont encore à venir.
Oui, alors il faut le dire, avec toutes ces annonces qu'il annonce, le gouvernement estime avoir fait un très très grand pas. Pour rappel, les intermittents depuis 1 an protestaient contre une convention qui durcissait fortement les conditions d'accès au chômage et critiquait plus largement le modèle social où c'était finalement, selon eux, le MEDEF qui dictait ces lois lors des négociations. Alors au terme d'une grande concertation de plusieurs mois, le Premier ministre Manuel Valls avait promis de sanctuariser la spécificité du régime des intermittents. Il avait donc annoncé un article spécifique dans la prochaine loi sur le travail, la loi Rebsamen, donc, qui doit permettre d'encadrer les négociations entre salariés et patronat. C'est cette mesure qu'on retrouve en tête, bien sûr, de la feuille de route dévoilée aujourd'hui, qui a permis d'apaiser les intermittents, mais il reste beaucoup de travail, estime Denis Gravouille de la CGT Spectacle.
La feuille de route, elle est conforme à ce qu'avait annoncé le Premier ministre le 11 février. Dans la loi dialogue social qui va passer en Conseil des ministres ce mercredi, il y aura un article 20 qui précise les conditions de la négociation de la convention assurance chômage pour les annexes 8 et 10 intermittents du spectacle. Il y aura une négociation qui se passera au niveau professionnel, c'est-à-dire entre employeurs et organisations syndicales du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, et de façon à ce que ça ne se passe pas uniquement au MEDEF, avec des gens qui n'y connaissent rien et qui ne nous veulent pas forcément du bien. Donc cette négociation, c'est plutôt intéressant. Maintenant, les orientations qui sont fixées au niveau interprofessionnel peuvent être très dangereuses. Donc il faudra qu'on surveille ça avec une grande attention.
Car ces négociations seront effectivement encadrées.
Oui, et dans un contexte budgétaire qu'on connaît, il est assez contraint, disons-le. Mais autre bonne nouvelle annoncée par le ministère de la Culture, qui dit clairement vouloir lutter contre la précarisation dans ce milieu, il y a cette grande conférence pour l'emploi. Et qui plus est, sa préparation a été confiée à Jean-Paul Guillot, un expert qui est très apprécié des syndicats d'employés, ce qui marque là aussi un véritable effort de la part du ministère pour la mise en place du dialogue. Mais pour Françoise Chazot à la FO Spectacle, faire des promesses au niveau du chômage, c'est une chose, mais c'est l'emploi qui reste le nerf de la guerre.
Nous, on est plutôt pour, c'est une bonne chose, sanctuariser les annexes 8 et 10, puisque notre organisation, durant la négociation avec le MEDEF, on s'est battu pour que les annexes 8 et 10 restent. Maintenant, de dire qu'on va mettre dans la loi, qu'on va sanctuariser avec une négociation qui prévoit un cadrage, nous, on est plutôt contre. Ce qui nous gêne, nous, c'est que ce soit un peu de la poudre aux yeux. Ce qui va compter, c'est la conférence pour l'emploi. Parce que la conférence pour l'emploi qui doit avoir lieu à peu près au mois d'octobre, c'est la préparation de l'assurance chômage. Nous, on ne veut pas plus de chômage, on veut plus d'emplois. Il y a une nuance, on ne règle pas l'emploi par le chômage. À notre avis, la cause, c'est l'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, il y aura encore plus de chômage. Moi, je veux bien, on parle de la sacralisation de la culture. Vous avez vu tous les spectacles qui dégringolent petit à petit. Il y en a à Avignon, tous les jours, les orchestres, il y en a qui disparaissent. C'est ça l'emploi.
Une autre mesure très attendue de cette feuille de route prévoit d'ouvrir des négociations autour des recours abusifs au statut d'intermittent.
Oui, ça c'était vraiment très très attendu. Il s'agit des fameux permittents, c'est le surnom qu'on leur a donné, qui travaillent parfois des années pour un même employeur, souvent dans des grandes entreprises publiques, privées, d'audiovisuel ou encore des sociétés de production dans le cinéma. Et pour Denis Gravouille de la CGT, il était vraiment temps de s'y attaquer.
Un autre des aspects qu'on attendait dans la feuille de route, c'est la négociation que nous avons demandée sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage, c'est-à-dire en gros, dans quelles conditions on peut recourir à des emplois précaires, qui sont les emplois des intermittents, et ce qui doit relever de l'emploi permanent, où on sait qu'il y a un petit pourcentage d'abus à l'initiative de certains employeurs qu'il faut régler, qui ne va pas être facile à régler dans un contexte budgétaire, mais qu'il faut régler parce que c'est une question de droit et que des salariés demandent à travailler en CDI quand ils sont dans l'activité pérenne et permanente d'une entreprise.
Voilà, alors toutes ces négociations sont évidemment très attendues, elles vont venir, donc elles s'étalent sur les 6 prochains mois. Les syndicats d'employés préviennent aussi qu'ils seront très attentifs à la fameuse loi sur la création qui doit être présentée à la rentrée prochaine et qui aura effectivement nécessairement un impact sur tout le secteur.
Peut-être des réactions de la part de nos deux invités, Nicolas Sédoux, président de Gaumont, et Jean-Louis Dabadi.
Nicolas Sédoux. Il y a quelques années, un nouveau ministre de la Culture, je lui disais, vous avez deux grenades dégoupillées, la Cinémathèque française et les intermittents. La Cinémathèque française, grâce à la présidence de Claude Berry et avec Serge Toubiana, est devenue, pour les ministres qui arrivent maintenant, un immense motif de satisfaction, donc Jean-Loup et moi, nous pourrions vous faire des commentaires, vous ne vous coucheriez pas cette nuit.
Ouais.
Le problème des intermittents, ce qui vient d'être dit par exemple sur les permittents, ils cotisent, donc ils abondent le régime. Donc il faut être extraordinairement attentif quand on parle de ces sujets, de voir qu'il y a d'un côté le régime général français, qui est géré par le MEDEF, et un régime particulier qui est celui des intermittents, qui est unique au monde. Hein. Il n'y a pas un autre pays qui permet, en fait il s'agit de savoir, fondamentalement c'est pour le théâtre vivant, si pendant les répétitions, les gens sont payés. Dans tous les autres pays du monde, pendant les répétitions, ils ne sont pas payés. Donc c'est déjà un régime exceptionnel. Moi je comprends que ceux qui en bénéficient souhaitent toujours un peu plus. Je pense que Manuel Valls a pris une décision fondamentale et j'écoute avec attention le mot, il a dit « je veux pérenniser le système ». C'est-à-dire qu'on sort le système de l'assurance traditionnelle et qu'on a un système dérogatoire. Alors à partir de là, que chacun souhaite un tout petit peu plus, c'est normal. Je pense qu'un pas fondamental a été franchi et j'espère que sinon Fleur Pellerin, son ou sa successeur ou celui d'après, il n'aura plus à s'occuper du régime des intermittents du spectacle, que ce sera réglé, que ce sera pérenne et que la France continuera à bénéficier d'un régime dérogatoire unique au monde.
Jean Dabadi, quelque chose à ajouter ?
Rien à ajouter. Là.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la mairie de Paris qui a débloqué 80 millions d'euros pour restaurer les églises parisiennes, car oui, elles appartiennent pour 90 d'entre elles au moins à la ville depuis la loi sur la laïcité de 1905. Une aide substantielle mais loin d'être suffisante pour les architectes de la ville qui indiquent qu'il faudrait 15 à 20 millions d'euros par église. La maire de Paris a d'ailleurs rappelé la nécessité de faire appel là aussi au mécénat.
La quinzaine des réalisateurs dévoile une sélection mythique.
La section parallèle de Cannes créée en 68 dévoile une sélection de 17 films et récupère quelques-uns des réalisateurs prestigieux et qui ne font pas partie de la sélection officielle, notamment Arnaud Desplechin pour son film « Trois souvenirs de ma jeunesse » avec Mathieu Amalric, Jaco Van Dormel, Takeshi Miike, j'espère que je le dis bien, et Philippe Garrel avec « L'ombre des femmes ». Il y aura évidemment plusieurs premiers films aussi.
Le groupe Le Monde vise le retour à l'équilibre avant l'été.
Après une perte nette en 2014 d'un demi-million, le groupe Le Monde tape sur un retour à un bénéfice net en 2015. Je rappelle que l'imprimerie du Monde, qui édite notamment Le Monde, mais aussi Télérama, Le Courrier International, Le Monde Diplo, etc., fermera avant l'été puisqu'elle affichait une perte de 2,5 millions. Le groupe compte sur cela et aussi sur l'expansion du numérique pour redresser la barre.
Et j'imagine qu'il y a une dernière.
Il y a une dernière, c'est une petite dernière, mais assez substantielle. C'est une histoire de musique qui s'écrit. Et oui, la musique électro bascule dans le patrimoine officiel de la culture, on va le dire. Le premier établissement européen consacré à la musique électro va ouvrir ses portes en Allemagne d'ici à 2 ans. C'est le DJ Andreas Tomala, alias Tala 2XLC. Vous le connaissez, Laurent. Vous avez dansé sur
Je connais que lui, oui, comme un fou.
Je suis sûre. Il est à l'origine de ce projet. Donc voilà, c'est un musée qui va porter un titre. Et oui, il aura un nom. Et ce nom, ce sera « La musique est la clé de la technologie ». C'était une phrase mythique dite par Brian Eno. Alors, ce ne sera pas vraiment un musée. Il y aura plusieurs salles dédiées à l'histoire de la musique électro. Mais il y aura évidemment des ateliers DJ, des concerts, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas un musée financé par la ville, mais uniquement par des fonds privés. Et il est désormais possible de devenir membre de l'association pour la création de ce musée. Et donc, quand vous vous inscrivez, vous donnez soit de l'expertise, soit de l'argent, et vous bénéficiez évidemment d'un cours de mix gratuit à l'ouverture. Autant vous le dire, Laurent, je vous ai inscrit à la seconde même où j'ai eu cette nouvelle.
Pour l'expertise, j'imagine.
Surtout pour l'expertise.
On se retrouve demain pour la suite de ce Journal de la Culture.
Avec plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez le réécouter et le podcaster sur le site du Journal de la Culture. Le rendez-vous.
Plateau anniversaire avec vous, Nicolas Sédoux, président de la Gaumont. Gaumont qui fête ses 120 ans cette année. L'histoire d'une société de production et d'exploitation liée à l'histoire du cinéma en France. Même si Gaumont n'a pas inventé le cinéma ni produit le premier film. En revanche, Gaumont en a accompagné le développement et l'industrie. Une histoire qui est relatée actuellement dans une exposition au 104 à Paris, une exposition gratuite. Et puis que le critique de cinéma Jean-Luc Douin retrace dans un ouvrage 120 ans de cinéma Gaumont que vous avez préfacé aux éditions de La Martinière. Dans un premier temps, la société avait pour nom LG, puis La Gaumont, avant de devenir tout simplement Gaumont. À quel moment l'article a disparu, Nicolas?
Écoutez, c'est très simple, c'est quand je suis arrivé. Il y a
40 petites années.
Sous le contrôle de Jean-Louis Dabadie.
Sous le contrôle de Jean-Louis Dabadie. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Société Nouvelle des Établissements Gaumont. Mais je pense que quand on parlait à Jean-Loup, on lui disait la SNEG. Vous pouvez difficilement faire plus laid, la SNEG.
Oui, c'est vrai.
Or, de même qu'une société qui s'appelle Société Française. Vous savez que c'est la filiale d'une société étrangère. Société Nouvelle, ça veut dire que la société a fait faillite précédemment. Donc, il y avait quand même un cumul qui était terrifiant. Et quand on a la chance de porter un des grands noms du cinéma, ben, on s'appelle Gaumont, comme on s'appelle Universal, comme on s'appelle Warner ou comme on s'appelle Pathé. Donc voilà, c'est la première décision que j'ai prise. Et après... Dit-on La Gaumont, on dit une société, donc on dit plutôt La Gaumont que Le Gaumont, qui serait un cinéma.
Une autre question historique, puis après on passera à l'actualité. On parle aussi de la firme à la marguerite, le célèbre logo apparu pour la première fois en 1903. C'est quoi son histoire et sa symbolique?
C'est d'une simplicité absolue. La mère de Léon Gaumont s'appelle Marguerite, et il trouve que le G s'intègre bien dans la marguerite. Et nous devons être en 1903.
Ouais.
Il demande que systématiquement, sur tous les films Gaumont, on voit le maximum de marguerites. Et si vous voyez des films muets, vous voyez, entre guillemets, un papier peint, il y a des marguerites. Vous avez des marguerites absolument partout. Non, mais il avait tout compris de la promotion.
Ah ben, ça, c'est
ce que je veux dire, c'est qu'il est en avance sur les Steve Jobs et compagnie. C'est absolument incroyable.
Je vous avais dit un commentaire.
Je voulais dire, pardon.
Vas-y.
Je voulais dire à Nicolas que quand il dit heureusement le Gaumont c'est devenu la Gaumont, eh bien il maltraite ma mémoire, parce que moi quand j'étais petit garçon, quand mes parents, si je travaillais bien au lycée, m'emmenaient au cinéma, en général le dimanche, ils m'emmenaient au Gaumont, celui de le cinéma majestueux, le paquebot de la place Clichy. Et on allait au Gaumont, et quelquefois on y allait avant de savoir quel film on irait voir, parce que c'était un endroit noble, c'était un bâtiment, je dis comme un paquebot, comme un bateau, et c'était le Gaumont. Et plus tard, quelques décennies plus tard dans ma vie, je suis entré comme auteur à La Gaumont.
Non mais donc, nous sommes d'accord. Le cinéma, c'est Le Gaumont, voilà. Et la société, c'est La Gaumont.
Voilà.
Tu as travaillé pour La Gaumont,
voilà.
Et tu as été formé au Gaumont. Les Gaumont.
Benoît Lagan.
Alors Nicolas Sélou, vous êtes diplômé de l'IEP de Paris, passé par le droit et la finance, par la Compagnie internationale de l'informatique et puis une banque d'investissement à New York. Vous entrez chez Gaumont en 74, donc il y a 40 petites années. Qu'est-ce qui vous attire alors dans cette direction et puis quel était le cinéma qui vous avait fondé pour rentrer à la Gaumont ?
Si vous voulez, vous venez de parler d'une banque, il se trouve que j'étais aux États-Unis, et il y avait deux éléments importants. Le premier, c'est que les années 69-70, c'est une crise profonde de la fréquentation aux États-Unis avec trois studios qui ont des pertes considérables. Et c'est une télévision radicalement différente de celle qu'on peut voir en Europe, où toutes les télévisions à l'époque sont de service public, où vous voyez de nombreuses chaînes avec donc des programmes différents. De mémoire, il y a une douzaine de chaînes à New York à l'époque. Et donc, il y a cette idée absolue que, pas du tout pour se substituer, mais la conquête de l'image se poursuit. Le cinéma, il invente l'image animée. Et on parle souvent des grandes inventions et on oublie le cinéma. On parle de la voiture, on parle de l'avion et on oublie le cinéma. Notre monde aujourd'hui, donc 120 ans plus tard, il est dominé par l'image. Alors il y a quelques images, parfois les plus terrifiantes, qui sont des images d'amateurs. L'effondrement des tours, le tsunami en Thaïlande. Et puis nous, professionnels, avec l'aide de quelques auteurs, nous essayons de faire en sorte que ces gens qui restent chez eux ou qui éventuellement ont leur petit écran sur lequel ils regardent des images, de temps en temps, et ce temps en temps étant le plus souvent possible, ils sortent de chez eux, ils payent leur place, et ils se disent quand même, ces gens-là, ils ont du talent. C'est formidable de découvrir l'actrice dont nous parlera Madame tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de Sophie Marceau. Sophie Marceau, elle a fait ses débuts,
hein, en effet,
chez Gaumont.
La Boum.
Il se trouve que ce n'est pas toi qui a écrit le film, mais il y en a une autre, juste avant Isabelle Adjani, pour qui tu as écrit La Gifle. Ce que je veux dire, c'est que nous créons des mythes. Et que, tout ça pour dire que l'image, à côté de l'écrit, est aujourd'hui l'élément essentiel. C'est pas Internet. Internet, c'est le tuyau. Ce qui est important, c'est ce que véhicule Internet. Vous abonnez à l'électricité pour avoir le chauffage chez vous. C'est pas pour avoir un gros câble en cuivre. Et donc, aujourd'hui, on nous fait croire que ce qui est important, c'est le tuyau. Non, c'est pas le tuyau. C'est ce que transporte le tuyau. Et le tuyau, c'est autant que nous en sommes capables, des œuvres écrites par ce jeune homme.
Et à titre personnel, quel est le cinéma que vous regardiez avant d'entrer à la Gaumont ?
Alors, je crois que Jean-Loup vient d'évoquer ces passages au Gaumont Palace. On est marqué quand on est enfant et adolescent. Donc, si vous voulez savoir quel est le... Alors, le premier film que j'ai vu qui m'a terrifié, c'est La Belle et la Bête. Mais c'est pas... Il y a pire pour commencer. Et disons que mon film favori, ben, c'est toujours le même. C'est La Grande Illusion. Ça correspond sûrement au fait d'être l'enfant de quelqu'un dont le père est un officier prisonnier en Allemagne. Enfin, ça me semble assez évident.
Et vous, Jean-Loup Dabadie, ce serait...
Mes premiers films, vous voulez dire ?
Moi, les films qui vous ont fondé, véritablement.
Ah, qui m'ont fondé, je ne sais pas. Il faut chercher, puis j'ai peur, je n'ai pas à cet égard la mémoire aussi nette que Nicolas, que celle de Nicolas. Je peux vous parler des livres, si c'était une émission, je vous dirais, ça les gère. Je me suis dit, alors là, je peux pas faire un autre métier quand j'étais encore étudiant. Non, le cinéma, c'est que j'allais au cinéma emmené par mes parents, et aussi bien les Charlot que les Marx Brothers, et puis après, quand j'étais plus grand étudiant, j'aimais beaucoup les navets. J'aimais les films en noir et blanc, où il y avait la queue dans le quartier, au cinéma, où on allait en famille, pour des films qui étaient vraiment nuls, des petits policiers, des trucs où tout d'un coup, vous aviez une jeune femme qui faisait tomber une bretelle, on devenait fou. Et ça me donnait envie d'aller au cinéma, et puis un jour de faire du cinéma. Mais comme je ne suis pas venu directement, puisque je suis venu par la littérature et le théâtre.
Nicolas Sédou, à votre arrivée à la Gaumont, vous choisissez Daniel Toscan-Duplantier, qui ouvre la Gaumont à un cinéma d'auteur et international, hein, Michelangelo Antonioni, Bergman, Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Joseph Losey, Maurice Pialat, alors que l'entreprise était plutôt connue pour son cinéma populaire. À quelle stratégie ce choix correspondait-il à l'époque, avec votre arrivée en fait ?
Attendez, il faut être très clair, c'est pas un changement de cap, c'est une addition. Alain Poiret est là, et Alain Poiret, avec Jean-Loup Dabadie, il est là d'ailleurs pour en être le témoin, puisque tu avais déjà travaillé avec Alain avant, et tu as continué à travailler après. C'est simplement que, ayant le sentiment que la culture en général et le cinéma en particulier, c'est la diversité, Alain Poiré, c'est tout à fait normal, il faisait un type de film qu'il aimait, et que je pensais qu'une grande société de cinéma, à côté de ces films que j'aime, que je respecte, qui émouvaient les Français, je pensais qu'il y avait la place pour un autre cinéma. Et donc, la coexistence Alain Poiré, Daniel Toscan-Duplantier, puis Alain Poiré, Patrice Ledoux, ça a été des films en complément, puisque Alain, jusqu'à son dernier jour, a continué à produire des films.
Donc, et des comédies donc, de préférence.
Ouais. Et des comédies, parce qu'il aimait la comédie, et j'ajouterais, que la comédie est le genre préféré des Français. Mais c'est vrai qu'il y a eu donc, côte à côte, et je pense que c'est toute la richesse de Gaumont, Jean-Loup Dabadie, Francis Weber, Yves Robert, et Don Giovanni, et Le Grand Bleu. Voilà, et c'est la force d'une société de cinéma.
En parlant de comédie, vous avez écrit justement pour la Gaumont avec Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Pourquoi il n'y a pas eu de troisième éléphant? Parce que vous en parliez tout à l'heure en off, en fait, ici même, tous les deux. Jean-Loup Dabadie.
Vous voulez que je réponde, Laurent?
Ah ben oui, allez-y.
Eh bien, parce qu'on en a parlé beaucoup avec Sidonie Dumas, la merveilleuse fille de Nicolas. Et puis Nicolas, on en a parlé, puis on a déjeuné ensemble pour prendre une décision qui était quelque part difficile.
Faire ou ne pas faire le troisième éléphant.
Faire ou ne pas le faire. Alors, moi, mon argument qui a convaincu mes deux amis, c'était une douleur pour moi de ne pas faire le troisième. Et puis, je ne parle pas de ce que ça représentait du point de vue des affaires, du marché, des télévisions, etc. On ne parlait que de faire un film. Comme toujours, il vient d'en parler magnifiquement, Nicolas Lagoumont, l'esprit, l'histoire, les gens.
Alors
je me suis dit, et j'ai dit à mes amis, que nous avions... et qu'il ne fallait pas faire offense à la mémoire du public. C'est-à-dire, nous avions laissé nos quatre personnages en culotte courte sur un terrain de tennis, et on allait les retrouver maintenant à l'âge vrai qu'ils ont, puisque, Dieu soit loué, ils sont tous vivants, mais ils ont un certain âge, comme on dit, et que faire, que dire, que montrer, faire apitoyer, attrister, attendrir des sentiments et une manière de vivre qui n'est pas celle avec laquelle ils éclataient devant tout un public qui leur a été fidèle. Donc c'est moins pour eux, moins pour nous que pour le public. Qu'est-ce qu'on allait dire aux gens? Vous vous souvenez d'eux? Vous les regardez tout le temps quand ils passent à la télévision? Les petits-enfants? Moi j'ai un ami à l'académie qui a un gosse de 9 ans. Pour son anniversaire, sa mère leur a mis l'éléphant et le paradis aux petits copains, etc. Il sait ce qu'elle a fait. Et alors, bon, c'est un cadeau d'anniversaire qu'elle m'a fait à moi en disant ça. Alors, on n'a pas eu envie, n'est-ce pas, Nicolas, de les montrer vieillis.
Nicolas Sédou, ouais.
Je crois que ce que vient de dire Jean-Loup est très important. Quand on est un auteur, un réalisateur, il faut savoir ne pas en faire un trop. Voilà. Et ce que je regrette avec mes amis américains, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus quel numéro de Spider-Man, etc. Le cinéma, c'est la découverte de nouveaux personnages. Quand vous avez la chance de faire un premier film qui trouve un accueil exceptionnel, tout le monde a envie de faire le numéro 2. Déjà, le numéro 3, il faut être un peu attentif. Voilà. Et après, il faut... Voilà. Sinon, on tombe dans un autre genre, qui est celui de tes prédécesseurs au XIXe siècle, Eugène Sue, Balzac, où c'est très simplement le feuilleton, et c'est ce que fait très bien la télévision. Nous sortons des œuvres uniques, alors que la télévision, je trouve que son rôle, c'est de créer des personnages, et une fois qu'elle les a créés, les téléspectateurs les aiment, et que ces personnages, pendant très longtemps, réapparaissent sur le même petit écran.
Et d'ailleurs, la Gaumont a produit aussi des séries télévisées, pour notamment Vidocq dans les années 70.
Oui,
mais
alors nous en reproduisons maintenant de façon très active.
Hannibal, par exemple. Quand vous êtes arrivé à la Gaumont en 74, vous changez aussi quelque chose, vous désindustrialisez cette société, c'est votre terme. Qu'est-ce que vous faites précisément?
Oh ben c'est très simple. Gaumont,
Nicolas Sédou,
était impliqué dans des laboratoires, et je pense que un film, c'est une rencontre artisanale d'un nombre très limité de personnes pour un temps limité.
Bien dit.
Il ne faut en aucun cas se dire j'ai une structure derrière avec des gens tout à fait compétents. Qu'est-ce que je leur fais faire? C'est-à-dire que le film. Qu'est-ce que nous cherchons à faire? À communiquer notre envie, notre désir à des inconnus qui s'appellent le public. Si on se sent forcé en disant « j'ai une machine qui attend derrière, elle doit tourner », c'est une catastrophe. La télévision, elle doit avoir un programme tous les jours. Nous, nous faisons un film quand nous sommes prêts, quand nous, ce mot qui a perdu un peu son sens, quand nous le sentons. C'est-à-dire que Jean-Loup est content de son scénario, le réalisateur, prenons Yves Robert, puisqu'on parlait des éléphants tout à l'heure, sent bien le scénario, on a trouvé les lieux de tournage idéaux, etc. On a trouvé les comédiens, même si toi tu as toujours écrit plutôt pour certains caractères, il y en a un qui peut changer au dernier moment, il faut changer un peu le scénario. Et quand on est prêt, on tourne. On ne tourne, on se dit pas, on doit tourner parce qu'il y a des équipes derrière. Donc je pensais que nous devions rester dans le désir, c'est-à-dire l'inverse de l'industrie. On n'est pas dans le rapport qualité-prix, on est dans l'envie, on est dans la tentative de transmission d'émotions. Ce que tu fais admirablement quand tu es parolier de chansons, c'est transmettre des émotions. Cinéma, c'est la même chose.
Oui, pour autant, le cinéma est aussi une industrie culturelle. Donc la dimension économique est aussi très importante.
J'aime pas le mot industrie culturelle. Voilà, mais non, mais je...
Mais ce n'est pas un gros mot.
Non. Mais le mot industrie, qu'est-ce que l'industrie ? L'industrie, c'est la fabrication en série. Donc, quand on dit industrie de prototype, c'est un oxymore. C'est absolument à l'opposé. On ne peut pas être industrie de prototype. Non, et d'abord, moi je préfère, ce que nous cherchons à faire, soyons clairs, ce sont des œuvres uniques. Et c'est pour ça que la répétition, le numéro 3, le numéro 4, on n'est plus dans l'œuvre unique.
Ouais, on est dans l'exploitation.
Alors comme à chaque invité depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Nicolas Sédoux. Identification de ces sons, Nicolas Sédoux, et la signification pour vous.
J'ai dit que mon film préféré était La Grande Illusion. Je ne sais pas si Jean-Loup était à Paris pendant la guerre, mais les enfants que nous sommes, puisque nous avons le même âge, sommes réveillés en pleine nuit par ces bruits. Et au fond, je voulais dire à vos jeunes auditeurs qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans un monde en paix. Que lorsqu'ils voient ces réfugiés qui arrivent sur toutes les côtes de la Méditerranée du Nord venant de la Méditerranée du Sud, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la guerre. Il faut qu'ils comprennent que l'Europe est une chance exceptionnelle. Puis après ça, on peut parler de la façon dont certains sujets sont traités par l'Europe, notamment éventuellement, si nous avons 30 secondes, les risques qui pèsent sur le droit d'auteur. Mais il faut comprendre que cette Europe... Après le drame qui se sont passés dans l'ex-Yougoslavie, elle est en paix. Que pendant 70 ans, on a eu 3 guerres avec l'Allemagne. Hein, c'est exactement 70 ans, 1870-1940. Depuis 70 ans, nous sommes en paix avec l'Allemagne. Et que l'Allemagne est notre principal partenaire et aurait toujours dû l'être. Que l'apport notamment des philosophes allemands, des romanciers allemands, de la musique venant d'Allemagne, bon, c'est absolument formidable pour la France. Et donc comprendre que la paix... Ce n'est pas quelque chose qui est systématiquement acquis, qu'il faut un peu avoir conscience que c'est fragile, qu'il faut donc la défendre, qu'il faut donc défendre l'Europe, et que lorsque un pays, en l'occurrence l'Italie, est confronté à un problème absolument majeur, la seule chose qu'on n'ait pas le droit de faire, c'est de tourner le dos, ce que fait tout de même l'Europe depuis maintenant au minimum 5 ans. Donc, en fait, cette sirène de désespoir, c'est pour rappeler... que le danger est toujours là, mais c'est un message d'espoir pour que la paix demeure.
Le rendez-vous, la chronique.
On va vous retrouver Nicolas Sédoux et Jean-Loup Dabadie, à qui j'ai coupé la parole in extremis dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Vanity Fair d'Anne Boulet, en partenariat avec le magazine dont vous êtes la rédactrice en chef. Et ce soir...
Laurent,
oui,
vous qui êtes un arbitre des élégances, est-ce que vous pensez qu'un homme stylé peut porter des lunettes jaunes ?
Jean-Pierre Coff ?
Non, évidemment.
Vous n'avez pas pensé à lui.
Non, j'avais pas pensé à lui parce qu'il a pas il a des lunettes rouges.
Ouvertes, selon ses
lunettes. Oui, de toutes les couleurs, absolument. Alors, vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes Jack Nicholson. La star américaine porte sur la couverture de Vanity Fair des lunettes de Pépé Turfiste, dont même Jean Gabin n'aurait pas voulu. Mais surtout, il a à son bras une des plus grandes actrices américaines, en la personne d'Angelica Houston, qui fut sa compagne pendant 17 ans. Évidemment, la fille de l'immense John Houston était loin d'être un accessoire, un « arm candy », comme on dit si joliment en anglais. La meilleure preuve en est l'autobiographie intitulée « Suivez mon regard », qui paraît aux éditions de l'Olivier le 7 mai prochain. C'est un livre de 700 pages où elle revisite son passé avec la classe qu'on lui connaît. Et revient donc sur son histoire avec Jack Nicholson, qui, on s'en doute, n'était pas un boyfriend de tout repos. Quand elle rencontre Nicholson, Angelica Houston est un mannequin de 21 ans. Elle se remet difficilement d'une relation avec le photographe Bob Richardson, mais elle ne résiste pas deux secondes, et on la comprend un petit peu, au sourire carnassier de la star qui, c'est le moins qu'on puisse dire, semble avoir un petit problème avec la notion de fidélité et d'engagement.
Oui, mais au moins il la fait rire.
Enfin oui, ou moins, plus ou moins, parce qu'il l'affuble quand même de surnoms pas forcément hyper sexy, comme « toute manne fabuleuse » ou « la grande », parce qu'elle est très grande. Mais bon, le plus souvent, à son grand désespoir, il l'appelle « mon pote ». De son côté, Angelica avoue un culte tout oedipien à son père, le réalisateur John Huston donc. Il partage l'affiche de Chinatown, le chef-d'œuvre de Polanski avec Nicholson, et lui paraît soudain tout à fait évident que les deux hommes de sa vie se ressemblent beaucoup. Tout ça n'est pas simple, mais le couple est au cœur du cirque humain des années 70. Un soir dans la suite de Sinatra à Vegas, un autre au bord d'un ring pour encourager Mohamed Ali. Angelica Houston décrit un Nicholson déconneur, mais aussi très avif, marqué par un secret de famille levé tard. Il est en fait le fils de celle qu'il croyait être sa sœur.
Exactement. Ouais. Oui, j'ai bien compris l'histoire.
Et auquel elle attribue le cynisme de l'acteur. Ils tournent ensemble sous la direction de John Houston, L'honneur des Prizzi, film pour lequel elle remporte un Oscar. Au bout de 17 ans d'une relation tourmentée, où il leur arrive d'éprouver le besoin de se marier, mais jamais au même moment, Angelica Houston découvre que Nicholson attend un enfant d'une autre femme, et là, elle lui casse la gueule. Fin de l'histoire. Au Noël suivant, en guise de cadeau d'adieu, il lui fait porter un bracelet que Sinatra avait offert à Ava Gardner. Plus de détails et des tas de photos incroyables à base de lunettes jaunes dans le Vanity Fair de mai qui sera demain en kiosque.
Nicolas Sédou, vous les connaissiez ?
Non.
Non ?
Je ne connais pas. Je crois qu'il faut... Enfin, voilà. Moi, ça me gêne toujours quand on parle de la vie privée des stars.
Ah ben là, elle en parle pendant 700 pages.
C'est son
autobiographie.
Attendez, c'est pas pour ça que ça ne me gêne pas.
Ah, d'accord.
Je pense que le respect à la vie privée est indispensable dans certains métiers, par rapport à ce que vous venez de dire et sans évoquer qui que ce soit, à commencer par les responsables politiques, et que si évidemment les intéressés se mettent à en parler eux-mêmes, ils ne peuvent plus demander la protection sur leur vie privée. Mais que demande le spectateur ? Il se moque de la vie privée de Jack Nicholson. Il veut savoir si Jack
pas
Nicholson...
Pas forcément.
J'entends le spectateur.
Ah d'accord, le spectateur.
Je ne parle pas du voyeur, je parle du spectateur. Vous allez voir un film, vous aimez ou vous n'aimez pas Jack Nicholson, vous venez de citer un des films où il est le meilleur, mais il y a beaucoup d'autres films, et que... Je vais dire quelque chose d'autre. Tu l'as connu mieux que moi. Nous avons tué Romy Schneider, nous, la société française. Voilà une femme qui était sublime, une des actrices probablement les plus talentueuses, les plus douées, les plus intelligentes. Nous l'avons tuée. Nous avons failli, quand elle était au sommet de sa gloire, tuer Brigitte Bardot. C'est-à-dire que la pression médiatique, et je prends volontairement, pour que vous ne me disiez pas que j'accuse vos collègues d'aujourd'hui, je prends volontairement des exemples anciens. C'est-à-dire que il faut considérer un homme politique, savoir s'il est bon en politique, un acteur ou une actrice, s'il est bon dans ce qu'il fait. Et puis par ailleurs, s'il expose sa vie privée, c'est son problème. Si elle a envie qu'après ça, c'est son problème. Mais sinon, ce sont des métiers extraordinairement difficiles. Et je pense que quelque part, il y a un homme politique qui s'est suicidé, l'ancien maire de Tours. Et je lisais dans un journal, mais il faut qu'il soit solide. Mais attendez, non, il faut qu'il soit comme nous les hommes politiques. Il faut que nous tous, on ait envie de faire de la politique. Si chaque fois que quelqu'un est écrasé sur un passage clouté parce que le lampadaire est tombé en panne, le maire va en prison ou est mis en jugement ou en examen, ce n'est pas acceptable. Donc moi je suis absolument pour la protection de la vie privée et je suis donc contre ce type de publication.
Le rendez-vous.
Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. On va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls.
plateau maintenant, je sais, avec Jean-Loup Dabadie, écrivain, romancier, scénariste, parolier, académicien, découvert à la fin des années 50 par les éditions du Seuil, à 19 ans à peine. Vous êtes auteur de sketchs pour Guy Bedos, le scénariste d'Yves Robert, de Claude Sauté, de Claude Pinoteau, j'en passe. Parolier pour Julien Clerc, Michel Polnareff ou encore Serge Reggiani. On entend derrière nous, en ouverture de plateau, une chanson qui marque d'ailleurs votre entrée dans le monde de la chanson. Nous sommes en 1967. À l'époque, vous étiez auteur à la télévision, vous écriviez des sketchs, des pièces de théâtre, et c'est Serge Reggiani lui-même qui vous demande d'écrire pour lui. Qu'est-ce qu'il venait chercher chez vous ?
Non, je n'étais pas autour de la télévision, c'est venu plutôt après. C'est comme lorsque notre jeune et brillante amie a dit tout à l'heure, j'étais émerveillé, que je voulais faire de la sculpture, première nouvelle. C'était Claude Sauté qui voulait...
C'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs d'un de ses acteurs, Max Elferrailleur.
Ouais. Voilà, mais ça ne me gêne pas, quel bel exemple, quel beau rêve. Non, Serge Reggiani avait lu une pièce qui avait été jouée au Théâtre de Paris, j'avais 27 ans, 28 ans, et on lui avait proposé un rôle à l'époque, il n'avait pas pu ou pas voulu prendre ce rôle, et puis il me téléphonait un jour à la maison, à Meudon, en me disant, voilà, c'était l'époque où on pouvait se téléphoner, on prenait, tu as pas le téléphone à tel, oui, on pouvait se parler facilement, sans passer par les secrétaires des agents, etc. Et c'était formidable entre les auteurs et les comédiens et les producteurs. Moi, quand je vais appeler Nicolas Sédoux, j'appelle sa secrétaire Francine. Je vous passe tout de suite, mais c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, Serge m'appelle en me disant, je voudrais que vous m'écriviez une chanson, parce que je veux me lancer dans la chanson, il y avait 48, 50 ans.
Ouais.
Et je lui dis, monsieur, je suis très, très très honoré, mais je ne sais pas écrire de chansons. J'ai écrit des livres, j'ai écrit une pièce, j'ai commencé à écrire pour le cinéma, pas pour la télévision, mais je ne sais pas écrire de chansons. Il me dit, c'est pour ça que je viens vous chercher, parce que je voudrais des auteurs nouveaux, je ne veux pas faire mon marché, entre guillemets, chez les auteurs célèbres. Il y avait des grands auteurs, des grands paroliers, ceux de Bécaud étaient grands paroliers, Pierre Delanoë, Louis Amad, Maurice Vidalin. Immense parolier auquel je pense que la mémoire rendra hommage.
Notamment pour Gilles Gréco.
Oui, et puis quelqu'un qui écrit Marseille, tais-toi Marseille, je n'entends pas claquer, les voileux dans le port, c'est magnifique. Bon. Et alors Serge dit, moi je voudrais quelqu'un de nouveau. Alors, je lui dis, écoutez, c'est une nouvelle formidable, je vous remercie beaucoup. Il me dit, il y a une nouvelle un peu plus ennuyée pour vous, c'est que nous sommes vendredi.
Il me le faut pour?
Pour mardi, parce que je passe en première partie de Barbara à Bobino, et le stylo sous la gorge, je me mets à chercher, je me dis, qu'est-ce que je peux lui écrire? Je peux lui écrire une chanson comme pour Johnny, comme pour d'autres, on dansait, je t'aimais, j'espère te revoir après les vacances. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai puisé instinctivement dans ma mémoire de spectateur, je me suis dit, je vais faire une tentative pour écrire pour le grand acteur sartrien, le grand acteur de Casque d'or, etc. Et j'ai cherché un scénario et je suis tombé quelque part dans ma tête sur cette histoire simple d'un homme quitté par sa femme qui reste avec un petit garçon dont il ne sait pas se servir. Et j'étais tellement pressé par le temps qu'il y a, après ça ne m'est plus arrivé, mais c'était pas plus mal, il y a des vers qui ne riment pas, il y a des vers qui n'ont pas de rime, seul. Alors je me dis, seul, que faire? J'avais pas de dictionnaire de rimes. Alors dans ma tête, je cherche dans toutes les poésies que j'avais lues, toute ma vie d'étudiant, etc. Les rimes à seul, glaïeul, linceul, gueule, épagneul, impossible. Que faire?
Épagneul, je vous le confirme, impossible.
Que faire? Alors, j'ai laissé seul. Alors chaque fois que je rencontrais Philippe Noiret, mon cher Philippe, il me chambrait toujours en me disant, on est là tous les deux. Seul.
Bon. Voilà. Marcel Dabadie, votre père était aussi parolier, notamment pour Maurice Chevalier et les frères Jacques. Vous aviez appris des choses à son contact?
Bien sûr, j'ai surtout appris à rencontrer l'innocence, l'enfance et la gentillesse des chanteurs qu'on appelait les chanteurs de variété à ce moment-là. Et mon père, il écrivait pour André Claveau, pour André Dassary, un peu pour les frères Jacques, Jean Merveilleux qui venait à la maison, le tout petit endroit où nous vivions. Et mon père leur avait...
Et pourtant, ils étaient nombreux.
Et oui, et mon père leur avait écrit une chanson tellement délicieuse qui s'appelait Général Castagnetas, qui nous a permis de vivre à la maison pendant un an et demi à peu près. C'était le plus grand général du Mexique.
José de Las Castañetas. C'était vraiment, c'était un type fantastique. C'est un nanas, c'est un très grand... J'avais fait un gros succès avec ça. Et encore aujourd'hui, quand je vais en province ou ailleurs, à Paris, ma province, je rencontre des personnes pas forcément très âgées. Et vous êtes celui qui a écrit le général Castañetas.
Je suis qui a écrit la chanson des choses de la vie. À propos de cette chanson, les choses de la vie, qui a été chantée par Romy Schneider, comment est née l'idée de cette chanson? Alors même qu'au départ, je sais que vous n'étiez pas très chaud, parce que par principe, vous n'aimez pas écrire des chansons inspirées par un film.
Laurent est bien renseigné, je trouve que ce n'est pas bien de... Enfin, c'est pas bien. Pour moi, je ne suis pas attiré par l'idée de commenter par une chanson ce qu'on s'est évertué et écrire pendant des mois et des mois. Moi, je ne suis pas le Speedy Gonzalez de l'écriture. Je mets beaucoup de temps pour écrire mes scénarios. Et surtout, quand j'ai la chance d'avoir des grands metteurs en scène qui me tourmentent, comme c'était le cas avec Claude Sautet.
Bah, Claude Sautet, il engueulait tout le monde.
Ou Rapneau. Ouais, moi, il m'engueulait pas moi.
Mais ah bon les acteurs, c'est quand même.
Mais il engueulait la situation. Il se mettait en colère en imitant, enfin, en imitant les personnages, pas les acteurs. Il dit, tu comprends, il me dit, César et Rosalie. Il dit, pas comme ça, César. Bon, alors, après, il me dit, faut l'écrire, ça. Bon. Et ça prend beaucoup de temps. Et je dis, après, écrire une chanson, comme un commentaire. Alors, c'est Claude Sautet qui avait eu cette idée. Il avait dit, tu sais, Romy, avec sa voix, comme ça, ça serait beau quand même que tu lui écrives une chanson. Mais la chanson, c'était donc bien après le film, n'est-ce pas? Bien après l'exploitation, enfin, le film en salle. Et je me suis simplement, de loin, inspiré de l'ambiance de notre histoire pour lui écrire cette chanson. C'est un petit peu comme la chanson que j'avais écrite, que j'ai écrite après pour Jean Gabin, avec portée.
Maintenant, je
par
sais.
Le, oui, par le fait que j'étais persuadé qu'elle ne la chanterait jamais, comme Jean, qui ne chanterait jamais cette chanson en disant, mais c'est pas mon truc, je ne veux pas faire ça. Et l'émotion qu'on trouve dans, quand on écoute et quand on la regarde, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris un film, heureusement, Romy, chantant, c'est une émotion qui est la sienne, parce qu'elle est arrivée comme une enfant, comme ça, et texte su, à l'ancienne, comme Gabin. Il est arrivé, je sais, etc. On lui avait mis le texte sur le pupitre, il l'a enlevé, il l'a mis sur le piano, il a dit son texte, comme ça, pour un technicien, moi-même et le producteur. Et Romy, et c'est la fragilité que vous pouvez constater avec vos yeux et vos oreilles, ouais. quand elle chante cette chanson, c'est la fragilité d'une petite jeune femme émue qui se dit j'essaie, je me lance. Et du coup, son phrasé délicat, comme ça. Et...
Benoît Lagan.
Alors, Jean-Loup Dabédi, un triple album vient de paraître chez Universal dans la collection des grands plumes de la chanson, sur 45 de vos textes. Notre réalisateur a réécrit l'histoire et la chanson à partir de 7 de vos chansons et un sketch.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dictionnaire de rimes. À quoi ça sert, les rimes?
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
À quoi ça sert, les chansons? C'est un dictionnaire de rimes.
Comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Sur quoi vous avez dansé l'été dernier?
Chanteur de jazz.
Venez de filles de l'été là-bas. Venez de filles mon cœur, ça va aller bien devant. Avec moi. Sur quoi vous avez dansé l'été là-bas?
Je sais. Ça y est. Cette fois, je sais.
Présent dans tous les hit-parades pendant 14 semaines dans 18 pays.
T'en as assez, tu veux plus de ça.
Allons-y, Gling. Moi, c'est pas les feuilles mortes, c'est l'oseille que je ramasse à la pelle.
On finit d'ailleurs sur la chanson d'Hélène avec Romy Schneider.
Voilà, c'est ça. Donc il y avait Le Parolier de Guy Bedos, L'Assassin assassiné de Julien Clerc, Ma préférence, Chanteur de jazz de Michel Sardou, On ira tous au paradis de Michel Polnareff, Maintenant je sais de Jean Gabin. Et donc la chanson d'Hélène par Romy Schneider. Et donc le montage s'ouvrait sur les deux chansons de Julien Clerc. Et à son sujet, vous dites que vous aimez ces silences. Qu'est-ce que cela sous-entend en termes d'écriture?
Que j'aime les silences de Julien?
Oui.
Vous dire, ben oui, je trouve que écrire une chanson, d'ailleurs, c'est aussi vrai dans notre métier de cinéma. Moi, quand je m'efforce d'écrire une scène, je travaille au moins autant sur les silences, sur les regards,
Mais depuis mes débuts, depuis, je dirais, en gros, mon premier film, Les choses de la vie, et évidemment, j'allais dire materné par mon grand frère Claude Sautet, qui me disait, pour Romy, je me rappelle une fin de scène où Piccoli quittait la pièce, elle était déçue une fois de plus par les hommes. Nous, on adorait montrer faire des personnages de femmes déçues par les hommes. Et elle partait et il me disait, alors moi je lui mimais, je disais, elle s'en va et il s'en va et puis elle fait ça, alors je vous mime derrière mon micro, comme ça, ça faisait trois regards. Regard accompagnant Michel, un regard à
qui
moitié
baisse les yeux,
et puis à moitié.
À moitié, et le regard qui baisse les yeux.
Alors je dis à Claude, elle fait ça, et je dis, elle baisse les yeux, il s'en va. Ah, en coco, il faut l'écrire. Il m'avait fait écrire, ça existe dans le manuscrit. Quoi. Et dans les chansons, c'est la même chose. Les soupirs, c'est vrai, alors, surtout quand vous avez des grands interprètes. Mais Julien est extraordinaire pour ça, parce qu'il respire. Moi, j'adore, c'est vrai, dire que les acteurs et les chanteurs, pour moi, sont des acteurs. Les acteurs sont les souffleurs des auteurs, parce que des choses vous viennent... Je sais pas, ma préférence...
Pour Julien Clerc,
oui. Oui, pour Julien Clerc. Je n'aurais pas pu l'écrire pour un autre... s'il me l'avait refusé, je n'aurais pas pu la proposer à un autre chanteur. Parce que profondément, c'est pas du tout une question de vie privée. Pour moi, c'est lui dans le profond de sa personne. Femme, je vous aime, c'est la même chose.
Femme, je vous aime, il a eu des problèmes. Enfin, au départ, il était un petit peu réticent par rapport à cette chanson.
Parce qu'il avait peur au début... Il craignait au début que cela passât, accent circonflexe, pour une chanson de Don Juan de bazar. Que ça ne soit pas pris comme femme, je vous aime, mais toutes les femmes m'aiment. Et le public lui a expliqué qu'il avait bien compris la chanson. Or, c'est une chanson qui est écrite sur une chose que nous partageons, enfin, un état d'âme que nous partageons, Julien et moi. On comprend bien pour ça, c'est-à-dire à la fois le désir fou des femmes et une réserve totale, l'attraction et la pudeur. Donc, c'est pour ça que dans Femme, je vous aime, on chante toutes les femmes, les canons et les femmes, les mères, les filles, etc. Ils chantent à un certain moment « Vous êtes ma mère, je vous ressemble, et tout ensemble, mon enfant !» Vous voyez, ça veut dire toutes les femmes, et à la fin, il écrit, il dit une phrase que j'ai écrite, que j'ai jamais bien comprise d'ailleurs.
Allez-y.
Quand parfois ces mots se déchirent, jusque-là ça va.
Ça va, hein.
C'est que je n'ose pas vous dire, je vous désire, ou même pire, ô femmes.
C'est le au même pire qui vous résiste.
J'ai compris exactement, mais ça m'a toujours plu. C'est-à-dire, je vous désire ou même pire, c'est voilà. Bon,
on peut comprendre un petit peu quand même.
Non, mais oui. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est que ça nous est venu. C'est notre déchirement à nous, Julien et moi.
Alors, outre vos chansons, voici ce que vous avez choisi comme son ce soir.
Ah oui.
Qui vous a marqué. Qui sont ces chanteurs que vous avez choisis pour finir cette émission, Jean-Louis Dabadie ?
Ce sont des grands hommes politiques.
C'est qui ?
Ça m'a toujours fait... Je pense qu'il y a Michel Debré.
Ouais.
Je pense, vous allez me dire les autres, c'était...
André Malraux et Michel Debré en mai 68.
Et en mai 68, la fameuse marche, là, et tout d'un coup, à la
devant la tombe du soldat inconnu.
Se tenant les uns et les autres par les bras, par le coude, ils sont pris d'un élan du cœur et de l'âme, ils se disent, allez, on envoie la Marseillaise, et ils se mettent à chanter la Marseillaise, plus faux que la pire des équipes de France de foot ou de rugby qu'on déjà. On peut pas le réentendre pour rire ensemble.
Allez-y.
S'il vous plaît. Écoutez.
C'est Michel Debré qu'on entend là.
Nicolas Sédou est particulièrement. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont les bonnes paroles, mais ils chantent une autre chanson. C'est pas du tout la bonne chanson, en fait. Ils chantent autre chose.
Qu'est-ce que nous cherchons à faire ? À communiquer notre envie, notre désir,
à des inconnus qui s'appellent le public. C'est le tuyau. Non, c'est pas le tuyau. Qu'est-ce que nous cherchons à faire ?
Glaïeul, linceul, gueule, épagneul, impossible.
C'est le tuyau. Non, c'est pas le tuyau. Qu'est-ce que nous cherchons à faire ?
Attendrir.
C'est le tuyau. Non, c'est pas le tuyau. Qu'est-ce que nous cherchons à faire ?
C'est un dana, c'est une très grande... Il avait fait un gros succès avec ça.
Qu'est-ce que nous cherchons à faire ? C'est une addition.
Nicolas Sédouk est-il là ? L'exposition Gaumont 120 ans de cinéma, c'est au 104 à Paris jusqu'au 5 août. Et je signale la parution du livre dont vous signez la préface aux éditions de La Martinière. Jean-Loup Dabadie et ses interprètes, le coffret CD, est sorti sous le label Universal. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
Mais c'est pas tout ! Vous allez voir !
Mais qu'est-ce que c'est que ce Pierre-Etex ?
Du nom de Pierre-Etex, c'est une façon pour Pierre-Etex de s'exprimer.
Demain, une émission burlesque avec Pierre Etex qui va nous parler de
Buster Keaton.
À ses côtés, Emmanuel Mouret pour son caprice. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssa Touenda et Elsa Béranger. Journal de la culture The Espèce, à la prise de son Thibaut Germèze et Stéphane Poitvin et à la réalisation Thomas Beau.
Et la chronique, elle est signée
Anne Boulay. Chronique Anne Boulay, excusez-moi.
Il est 19h50, vous êtes toutes pardonnées. Il est 19h54 minutes, vous êtes sur France Culture. Mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.